au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mercredi le 15 octobre, j'espère que vous avez passé une belle journée d'émission. Aujourd'hui, Pierre Paquette sera là. On va se poser une question avec Pierre Paquette. Combien de temps le plan de paix de Donald Trump pourra-t-il survivre dans, évidemment, la bande de Gaza et en Israël? Il sera question aussi d'une candidate, oui, à la mairie de Lanoraie. Elle se nomme José Gastonguay. La semaine dernière, on a eu l'occasion de vous présenter le maire sortant André Villeneuve. On va parler aussi avec, tiens, Sébastien Nadeau de la table des préfets de la Naudière et Huguette Plouffe de l'Association québécoise des retraités. Il sera question de 3,4 millions de dollars d'injectés là, dans des projets communautaires. Mais tout d'abord, le cas de grippe aviaire identifié dans une ferme de Saint-Félix-de-Valois engendre évidemment la mise en place là, de mesures contraignantes pour éviter une contagion dans les autres entreprises de fermes. Les autres fermes, on sait à quel point Saint-Félix-de-Valois, il y a de nombreux couvoirs. Et bien qu'il n'y ait aucun danger pour la population, la situation modifie quand même le rythme de vie à Saint-Félix-de-Valois. Et François Morin s'est entretenu un peu plus tôt avec Audrey Boisjoli, la mairesse de Saint-Félix-de-Valois.
On a été avisé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments et le MAPAC. Donc, on a eu une rencontre, la municipalité, avec les professionnels là, de ces agences-là, qui nous ont fait part, effectivement, qu'il y avait un cas qui avait été détecté dans une ferme sur le territoire de Saint-Félix. Donc, dès là, que ça arrive, il y a des mesures qui sont mises en place. Puis c'est vraiment eux, l'agence et le MAPAC là, qui, avec le producteur, là, mettent en place toutes les mêmes contrôles. C'est eux qui déploient là, toutes les mesures de contrôle, la décontamination là, qui aura lieu d'ailleurs à partir de jeudi dans la ferme. Donc tous les bâtiments devront là, être vidés, nettoyés, décontaminés. Donc toute cette mesure-là là, va arriver, mais effectivement, il n'y a pas de danger là, pour l'humain. C'est important de rassurer les gens. C'est vraiment, par contre, c'est un enjeu surtout à ce jour-là économique pour le milieu là, avicole, parce que c'est le virus là, H5N1 se propage rapidement. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les oiseaux attrapent ce virus-là, le taux de mortalité est très élevé. Là, donc plus de 90% dans les cas de contamination. Donc ça peut là, rapidement là, envahir un poulailler et faire en sorte là, et même de se propager sur d'autres poulaillers si les mesures de contrôle ne sont pas prises rapidement pour s'assurer là, que ça se propage pas. Donc c'est là l'enjeu, c'est surtout un enjeu. Il faut s'assurer que ça ne se propage pas dans d'autres fermes à proximité. Puis c'est pour ça que les mesures de contrôle sont mises en place.
Avant de parler des impacts économiques, je voudrais revenir sur une partie du communiqué qui fait un peu peur. Si je suis un citoyen puis je vois ça, on dit qu'on a placé une partie de la municipalité en zone infestée, la totalité du territoire en zone de restriction. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, effectivement. Dans le fond, c'est vraiment des mesures de la CIA et du MAPAC. Donc, eux, ce qui détermine, c'est que à certains kilomètres, donc il y a des rayons. Donc, par exemple, le premier 3 kilomètres, il y a deux types de rayons, donc premier 3 kilomètres, après le deuxième, le 10 kilomètres, c'est qu'il y a des mesures restrictives pour l'entrée et les sorties sur les fermes. Donc, ça s'applique vraiment pour les producteurs avicoles et même ceux qui ont des oiseaux, donc des fermes là, artisanales, ça s'applique également à eux. Donc, il y a des mesures de contrôle qu'ils doivent prendre qui sont beaucoup plus sévères qu'à l'habitude. Donc, à vrai dire, c'est aucune entrée, aucune personne ne peut entrer sur ces sites-là, donc de toutes les fermes. Donc, c'est là que l'impact, ça ne s'applique pas seulement à la ferme qui est infectée, mais à toutes les fermes avicoles des secteurs qui sont concernés. C'est surtout pour ne pas que le virus se propage d'une ferme à l'autre, parce qu'effectivement, ça peut se contaminer rapidement. Donc, ça s'adresse surtout aux producteurs. Ça s'adresse également, je veux pas, à la population et même à la municipalité, parce que nous, par exemple, nos employés, si on parle juste de nos pompiers qui doivent faire de la prévention, nos urbanistes, inspecteurs en bâtiment qui habituellement peuvent travailler avec les producteurs pour aller fermer un permis ou aller constater quelque chose sur un terrain. Alors, en ce moment, la municipalité, nous, la directive, elle est donnée. Il n'y a aucun employé municipal qui va aller sur les fermes pendant cette période-ci. Puis il y a vraiment là, un délai là, qui est déterminé par la MAPAC. pour ces zones-là là, à visite restrictive. Donc, ça ne s'adresse pas nécessairement à la population, là, monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment pour les producteurs et les gens qui ont des fermes artisanales qui doivent prendre des mesures de contrôle plus particulières qui ont été nommées là, dans le communiqué qu'on a émis.
Et cette période-là varie évidemment dépendamment là, de l'intensité là, de l'événement. Alors, c'est pas tout de suite qu'on peut déterminer quand ça va prendre fin.
Exactement. Donc, c'est sûr que pour le producteur, là, ça, eux, s'ils ont un impact direct parce qu'ils doivent, dans le fond, vider les poulaillers, ils doivent par la suite là, tout décontaminer et il y a un délai là, avant qu'ils puissent rentrer une nouvelle de nouveaux poulets dans leur bâtiment. Donc, eux, c'est sûr qu'ils sont impactés par ça. Puis, le délai, ben, il va s'appliquer selon s'il y a d'autres cas qui sont détectés dans la municipalité. Ce qu'on ne souhaite pas, bien sûr, parce que, comme je disais, là, ça a quand même un gros impact pour nos...
Parlons-en d'économie, Mme Boisjoli. Saint-Félix-de-Valois est reconnu à l'échelle de l'Amérique comme étant un important centre de production aviaire. Alors, ça doit être un petit peu inquiétant.
Exactement. Donc, surtout dans le nord-est de l'Amérique, effectivement, on est un des centres de production avicole pour, dans le fond, le nord-est de l'Amérique. Et effectivement, donc il y a surtout une proximité, donc une densité de producteurs dans un rayon de tant de kilomètres. Donc, c'est quand même beaucoup de fermes à proximité. Donc, là, l'enjeu, qu'il faut prendre les précautions les plus grandes parce que chaque poulailler est quand même dans un rayon assez petit. Donc, on a beaucoup de fermes à proximité. Pour eux, c'est quand même de gros impacts économiques. Et en ce moment, là, dans le fond, que la ferme, qu'il y ait une ferme avec un cas qui soit impacté, ça impacte aussi toutes les autres fermes qui sont limitées, là, qui ont les mêmes mesures restrictives, s'ils sont dans les rayons dont on parle. Mais ça couvre pratiquement tout l'ensemble là, de la municipalité où il y a une majorité de fermes avicoles, ce rayon-là. Donc, ils sont pratiquement tous impactés là, par les mesures restrictives. Sinon, bien, au niveau économique, c'est certain que de devoir là, vider une ferme au complet, donc un poulailler, si par exemple il y a 20 000 poulets dans un poulailler, puis que sur la ferme, ils doivent, dans le fond, dès que le cas détecté, ils doivent s'assurer de vider tous les poulaillers. Donc, c'est malheureusement tous des animaux qui devront être tués parce que on veut pas qu'il y ait de contamination. Donc, c'est des grosses pertes pour nos producteurs avicoles dans la municipalité. Là, ça se compte en centaines de milliers de dollars. Donc, il faut comprendre que c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et faire très attention. Là, si on peut, on peut peut-être expliquer aussi là qu'il y aura la décontamination qui se fera avec le MAPAC et l'agence. Donc, ça peut quand même, moi, je tiens à viser là parce que c'est des mesures très très sérieuses qui sont prises. Les gens qui vont arriver pour décontaminer, ils vont être habillés avec des habits là spéciaux pour la décontamination, pour ne pas donc c'est des mesures qui sont prises par eux. Donc ça peut là, si vous passez notamment sur la 131, vous allez voir qu'il y aura peut-être vous allez peut-être voir là, ces gens-là à l'extérieur, mais tu sais, je pense que c'est important de ne pas s'inquiéter. C'est justement, ils sont là pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination dans l'ensemble de la municipalité. Mais je pense que c'est important là, de le nommer pour pas que les gens soient surpris puis deviennent inquiets. La décontamination là, se fera de jeudi, puis ça peut s'étaler jusqu'à lundi prochain. Et ça pourra même occasionner là, certaines entraves là, dans le secteur à hauteur sur la 131 chemin Saint-Jean, à hauteur là, environ du entre le rang du Portage puis le rang Sainte-Marie. Donc, il pourrait là, avoir des entraves sur la 131 parce qu'ils vont arriver avec des équipes et c'est une route du ministère là, où la ferme est située.
Quand même un grand branle-bas de combat du côté de Saint-Félix-de-Valois. C'était la mairesse Audrey Boisjoli. On n'a pas identifié formellement pour les médias le nom de l'entreprise de la ferme avicole où a été décelé ce cas de grippe aviaire. J'aimerais bien vous le dire, là, mais bon, on a retenu le nom, mais ça vous donne une petite idée de l'endroit là, du côté de Saint-Félix-de-Valois. On parle de la route 131. Là. Alors, je vous le rappelle, il y a un cas de grippe aviaire qui a été identifiée hier dans une ferme de Saint-Félix-de-Valois. Il est 16h15 dans les prochaines minutes. On aura à vous présenter une entrevue réalisée par le collègue Régent Turgeon avec Sébastien Nadeau de la table des préfets de la Naudière et Huguette Plouffe de l'Association québécoise des retraités. Il sera question là, de quand même 3,4 millions de dollars qui ont été injectés dans des projets communautaires.
Vous êtes propriétaire d'une entreprise et avez à cœur de bien la protéger? Promutuel Assurance est là pour ça. Faites comme plus de 60 000 entreprises au Québec. Profitez d'un allié de confiance là pour ça. Promutuelle Assurance et la 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 la.
L'Association des pompiers de Saint-Jean-de-Mata vous invite à un super party trad le 17 octobre dès 20h. Au programme, les cuillères à carreaux et les campagnards. Une soirée festive à ne pas manquer. Les billets sont en vente dès maintenant au 450-803-5232. Un party trad à ne pas manquer le 17 octobre dès 20h au Centre culturel de Saint-Jean-de-Mata.
Vu dans la circulaire Super C, le bœuf haché mi-maigre à 4,95 la livre ou 10,91 le kilo, les raisins verts rouges à 1,37 la livre ou 3,02 le kilo, puis la douzaine de sélection à 2,99. C'est super, Super C, valide jusqu'au 15 octobre. Détail au superc.ca.
Vendre ou acheter une propriété vous fait peur?
Ah ben, c'est simple. Contactez-moi.
C'est mon Mercier, courtier immobilier résidentiel.
Et commercial.
Ouh! Royal Lepage Partenaire, agence immobilière.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fascite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la clinique podiatrique de Joliette au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromé. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèses plantaires, injections de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIED, 398-7433, podiatrejoliette.com.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Barnabé-Sud, BMR Express. À Saint-Jude, Marché Omni. À Saint-Hugues, Marché Bonichois des Îlets. À Saint-Simon-de-Bagotte, dépanneur épicerie de chez nous. À La Présentation, dépanneur La Présentation. À Drummondville, dépanneur Sonic sur la 110e avenue, épicerie Lausière. Pharmacie Jean Coutu. À Saint-Charles-de-Drummond, pharmacie Jean Coutu. Et à Nicolet, les délices d'Audrey-Rainville. Station-service Shell, sur le boulevard Louis-Fréchette. Pharmacie Jean Coutu et dépanneur Royal. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Sainte-Béatrix, Saint-Ignace de Loyola, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Michel-des-Saints.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Ici, la musique américaine est tellement taxée qu'on n'en joue pas. La Naudière PM, communautaire.
16h18, il y a la table des préfets de La Naudière qui a fait des heureux aujourd'hui. On a annoncé des subventions totalisant plus de 3,4 millions de dollars pour la réalisation de 34 projets communautaires dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche lanaudoise qui vise l'amélioration des conditions de vie. On peut écouter là-dessus le président de la table des préfets de La Naudière, Sébastien Nadeau, également Huguette Plouffe. Elle est de l'Association québécoise des retraités de la MRC de l'Assomption, qui reçoit 195 000 $ pour son projet de bienveillance en action. Et Régent Turgeon les a rencontrés.
La table des préfets de La Naudière est généreuse aujourd'hui, là. En termes de développement communautaire et aide aux organismes communautaires, on fait bien.
Ben effectivement, et ce qu'on constate, c'est que les besoins sont grands dans la région de La Naudière. Et nous, d'avoir ces sommes-là du gouvernement du Québec, ça nous aide à préciser les actions qu'on pose. On est proche du milieu, on a des organismes qui sont super dynamiques, donc qui ont des plans précis pour aider de façon concrète. Alors de pouvoir, moi je pense que plus que les interventions se font proche du terrain, plus que ces dollars-là sont bien investis, alors on vient s'assurer par ce déploiement-là de ces aides aux gens qui ont besoin.
Il y en a pour tout le monde, en tout cas 34 projets, 3,4 millions de dollars, mais la demande était forte là, au préalable.
Au total, c'est 75 projets qui ont été présentés et des demandes totales de 10 millions de dollars. Donc, aujourd'hui, on va aider un peu moins de 50% des organismes qui ont demandé des sommes. On est content de les supporter. Le message que j'enverrai aux organismes que pour l'instant n'ont pas été retenus, c'est que ça ne veut pas dire que le projet n'est pas bon. Ça veut dire qu'on avait d'autres urgences. Donc, il faut faire l'importance. À un moment donné, quand on manque de sous, il faut faire la différence entre l'important et l'urgent. Là, on est allé vers l'urgent. On fait des représentations auprès du gouvernement du Québec pour énoncer ces besoins-là de notre milieu, puis qu'à chaque jour, ben, on puisse aller voir des sous qui sont supplémentaires pour aider les organismes. Donc, il faut continuer à rester en contact, continuer à rester actif, puis supporter notre milieu.
Il y a des critères, là. On peut pas aider n'importe qui, n'importe quand. Il faut, comme vous le disiez, que les besoins soient urgents.
Oui, effectivement. Et puis, il y a des besoins qui sont spécifiques dans le programme. Donc, il y a des critères qu'on se doit de remplir. Et c'est important d'avoir des critères parce qu'à un moment donné, on peut pas, quand on regarde juste les dossiers avec le cœur, ben, on se dit c'est tous des bons dossiers. À un moment donné, si on met pas de critères, ben, là, ça vient un petit peu nous mettre du rationnel dans les décisions qu'on doit prendre. Ça nous aide à préciser la qualité de l'heure investie.
Dans la Merci de l'Assomption spécifiquement, on fait une place aux aînés, là, une place importante, comme disait Mme Plouffe tantôt, des aînés qui sont parfois isolés, seuls, qui ont besoin d'être rencontrés, pour dont on doit évaluer les besoins.
Oui, je vous dirais que ici chez nous, c'est beaucoup les jeunes et les aînés dans la MRC de l'Assomption. Particulièrement parce que c'est deux clientèles qui sont importantes. Il y a beaucoup de naissances chez nous, puis la présence des aînés est omniprésente. Alors, d'avoir des organismes qui identifient les gens qui sont isolés, les gens qui sont seuls parmi les aînés, comme la QDR fait si bien, ben ça, c'est important. Puis ça nous de s'assurer que ces gens-là restent à contact avec leur communauté, demeurent contributeurs à notre communauté, ben c'est sain pour tout le monde. Tout le monde y gagne. Même chose au niveau de nos jeunes, qu'on puisse les accompagner justement dans un élan qu'ils ont besoin. Ben le CJE, l'Assomption, le Centre CAFO Jeunesse Emploi, l'Assomption, bien les aider. Alors, c'est très positif.
Ça relance le fait aussi que nos organismes communautaires ont besoin de visibilité, se faire entendre, se faire connaître pour qu'on apprécie leurs services.
Oh, c'est clair. On est chanceux dans la Naudière parce que les organismes sont là, les bénévoles sont là. C'est pas des gens qui sont en compétition, c'est des gens qui sont en collaboration parce qu'à la fin, on a tout le même objectif, c'est d'aider. Alors, c'est de s'assurer que ces gens-là ben, aient les moyens, aient le support, aient l'écoute. Et ça, on doit s'en assurer.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je vais vous demander de vous identifier, votre nom et votre titre.
Oui, bonjour. Je suis Mme Huguette Plouffe, présidente de la QDR, l'Association québécoise de la défense des droits des retraités, pré-retraités, section L'Assomption.
Une journée importante pour vous. Vous recevez la table des préfets via des gouvernements provinciaux à un montant de 195 000 $ pour le projet Bienveillance en action. C'est quoi Bienveillance en action pour nous aider à comprendre?
Pour nous, c'est comme une deuxième phase. On a fait le projet pilote de 2021 à 2024 et on a demandé un financement pour continuer. Vu que c'est un projet pilote, on disait que c'est important qu'il y ait une pérennité et après le desservir aussi aux villes pour qu'ils le prennent en main. C'était le but d'aller vers les gens, le citoyen. Parce qu'une personne, quand elle est à la maison, ne peut pas connaître tous les services. Moi-même, une façon de faire connaître aussi la bienveillance en action, c'est quand on va visiter les gens, souvent la personne à la porte, c'est une équipe de bénévoles jumelés, bénévoles intervenants. On va à la maison, les routes sont vraiment déléguées dans tel secteur. On va voir les gens, puis on demande comment ils vont, est-ce qu'ils ont des besoins particuliers. Souvent, la première réponse, la personne va dire « Non, moi, j'ai pas besoin. » Mais souvent, c'est une personne qui sort pas, connaît pas les services. Et souvent, quand on quitte, c'est pas long, ils vont nous dire « J'ai un voisin qui est en difficulté. » Ou « Il a perdu sa conjointe dernièrement. » Et là, on embarque aussi autant avec tous les autres organismes. Fait qu'étant donné que j'ai organisé le Salon des aînés, qu'on a eu 45 exposants pour les services aux aînés. Fait qu'on connaît le réseau. Je pense que c'est notre force de connaître le réseau. Moi, depuis 15 ans, je suis bénévole. 8 ans déjà à la présidence, mais avant, médiatrice, sentinelle. On a aussi avec les éclaireurs. Je travaille autant avec la santé mentale. Je suis déléguée aussi pour le CIS pour rencontrer les gens. Fait que pour moi, j'y crois, c'est une mission, mais je vois que ça porte fruit.
C'est une mission de prévention pour développer ce qu'on pourrait appeler une culture de bienveillance, là.
Absolument. Oui, parce qu'on n'attend pas, comme je le dis, puis je le dis aux gens, attendez pas qu'il arrive un événement. On frappe un mur souvent. Moi-même, j'ai fait de la publicité beaucoup pour expliquer quand il nous arrive rien, c'est le bonheur total. Mais la journée qu'on nous arrive puis qu'on frappe un mur, le meilleur exemple, on est de Repentigny, on se retrouve à l'hôpital Pierre-Lagardeur, on vient de changer de ville. Ce qui arrive dans l'hébergement, on nous annonce, vous retournez pas chez vous. Mais qu'est-ce où on vous envoie? Où? on vous donne un premier choix. Oui, c'est ça. Vivre dans sa communauté, c'est ce que j'ai bien dit dans mon salon dernièrement. On vit dans la dignité aussi. Mais le vieillissement, c'est pas toujours facile. Quand on a un conjoint, les aînés, maintenant, prennent soin des aînés. Ce qui est arrivé, c'est que la personne est envoyée à l'extérieur de la ville. Je posais la question à une personne. Oui, mais est-ce que vous avez une façon de véhiculer, de dire, vous avez un permis de conduire, vous avez un auto, vous allez aller voir quand votre conjoint. Fait que c'est toutes des questions de dire, de prévention, comme vous mentionnez. Puis moi, je travaille toujours dans ce sens-là. Puis on me demande encore une quatrième édition du Salon des aînés pour l'année prochaine. C'est un beau problème parce que la première année, je l'ai faite au Centre Anou, qui avait 30 exposants. L'année passée, je l'ai faite au Théâtre Alphonse Desjardins. Et de plus, là, je l'ai faite au Centre récréatif, 45 exposants et j'ai une liste d'attente. Fait que je me compare un peu comme les résidences. Fait que je me dis, j'ai une liste d'attente. Dans le fond, c'est correct. On est capable de vivre avec ça. Puis bienveillance, on est de plus en plus sollicité pour aller dans les RPA parce qu'on a des comités milieu de vie qui ont été fondés par la QDR. Fait que si on est invité, on y était dernièrement. On a visité les résidences Soleil. On est redemandé pour aller rencontrer les comités milieu de vie pour demander, ils sont dans leur milieu de vie, ils sont chez eux. Mais est-ce que les services suivent? C'est un questionnement.
On écoutait Huguette Plouffe, elle est de l'Association québécoise des droits des retraités. On rappelle que la table des préfets de la Naudière a annoncé aujourd'hui là une subvention totalisant plus de 3,4 millions de dollars pour la réalisation de 34 projets communautaire dans la MRC de l'Assomption. Il est 16h27.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Est-ce que c'était seulement dans la MRC de l'Assomption? J'en suis pas convaincu, là, mais c'est 34 projets communautaires. Là. C'est dans tout la Naudière, voilà. Côté circulation, la métropolitaine direction est, c'est quand même assez chargé là depuis Bourget et Salle-de-Meurthe jusqu'à passer un petit peu en Ribourassa, mais pas vraiment de ralentissement. On est nombreux quand même. Traversée facile vers la rive nord, Repentigny, 40 Est, on circule sans problème. Pont-le-Gardeur, accès facile, autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. 25 Nord, c'est depuis Maurice-Duplessis où on est quand même assez nombreux, et ça jusqu'au boulevard Lévesque, là, d'autre bord de la rivière des Prairies, en arrivant sur Laval. Et puis, on lève le pied à la jonction avec la 440 là, sur un petit peu plus d'un kilomètre. Par la suite, ça va bien là, pour atteindre le boulevard des Mille-Îles et Terrebonne. Le pont Sophie-Masson, c'est facile en ce moment. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. Direction ouest, ouais, c'est quand même pas si mal en direction est, un peu nombreux à partir de la montée des pionniers. Dans un instant, les nouvelles avec Pierre Jubainville.
Vous avez des nouveaux services à offrir? Un talent à partager? Des conseils à donner? Des chiens à promener? Des massages à donner? Des prothèses à fabriquer? Vous avez une bonne idée? Vous voulez vous lancer? Informez-nous, on le fera savoir. Venez vous faire voir. Visitez notreentourage.ca pour voir.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Super Soir SNQL, dépanneur Polo, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, dépanneur Beaussoir Pétro-Canada, épicerie Forêt et pharmacie Nancy Gaudreau. À Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonissoir Shell, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor. À Saint-Pierre, dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 Bonissoir, dépanneur des Prairies et Marché Philippe. Et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonissoir, dépanneur Proxy Extra et Shell Saint-Paul. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Chez B7, créateur de confort, profitez dès maintenant de rabais exceptionnels sur certaines unités murales allant de 400 $ à 750 $ de réduction. Équipez votre maison d'un système performant et économique pour un confort assuré toute l'année. Et profitez de la subvention Logiver pouvant aller jusqu'à 2 000 $. Et ce n'est pas tout. Mentionnez CFNJ lors de la prise de rendez-vous et obtenez un rabais exclusif. Appelez B7 Créateur de confort dès aujourd'hui pour profiter de cette offre limitée.
Vous êtes entrepreneur et désirez faire connaître votre entreprise auprès des gens d'affaires du Grand Joliette? Ne manquez pas le souper tournant de la Chambre de commerce du Grand Joliette, présenté par Charco Sécurité en collaboration avec la SADC de Dautré-Joliette pour une expérience réseautage efficace et des plus performantes. C'est un rendez-vous le 23 octobre au studio GCIA et les billets sont en vente dès maintenant au ccgj.qc.ca.
La formation Grossile et son spectacle Homérique propose une rencontre entre le Québec et l'Irlande le samedi 18 octobre au Crapaud à Saint-Félix-de-Valois. Les billets sont disponibles en ligne à crapaud.qc.ca.
Oui, voilà, 16h31, c'est l'heure des nouvelles avec Pierre Jubainville. Tout d'abord, Pierre, on parlait du début de la décontamination de cette ferme là, du côté de Saint-Félix-de-Valois.
Oui, ça commence demain et l'opération pourrait s'étendre jusqu'à lundi. Il y a quand même des mesures contraignantes qui sont déjà en place pour éviter qu'on contamine les autres fermes. La mairesse de Saint-Félix, Audrey Boisjoli, explique que toute cette procédure a des impacts aussi sur les employés de sa municipalité.
Ça s'adresse surtout aux producteurs. Ça s'adresse également, je veux pas, à la population parce que, et même à la municipalité, parce que nous, par exemple, nos employés, si on parle juste de nos pompiers qui doivent faire de la prévention, nos urbanistes, inspecteurs en bâtiment qui habituellement peuvent travailler avec les producteurs pour aller fermer un permis ou aller constater quelque chose sur un terrain. Alors, en ce moment, la municipalité, nous, la directive, elle est donnée. Il n'y a aucun employé municipal qui va aller sur les fermes pendant cette période-ci.
On sait, les routes de la Naudière retiennent beaucoup l'attention dans l'actualité là depuis quelques semaines déjà, et on a parlé évidemment de ponceaux là. Il en était question hier, autoroute 40. Et le ministère des Transports, Pierre, répond à cette urgence là, de réparer les ponceaux dans la Naudière.
Oui, il faut dire que le ministère répond après la publication du dossier sur les ponceaux. Sinon, on l'aurait peut-être pas su. Enfin, on va entreprendre au printemps, Claude, une série d'interventions sur une trentaine de ponceaux qui obtiennent une cote D et E entre Lavaltrie et Saint-Barthélemy.
Incroyable.
On roule là-dessus, hein, n'oubliez pas. Alors, par contre, les projets des chantiers routiers de plus grande envergure sont en préparation pour les ponceaux en fin de vie utile. On retrouve 33 ponceaux vétustes qui sont répartis sur un tronçon de 10 km. Seulement sur l'autoroute 10. Alors,
on reste sur la route. On va parler de la 347 cette fois, là où un appel d'urgent là à sécuriser cette route-là a été lancé.
Oui, à la Saint-Herbert, donc, on doit composer avec le passage obligé de nombreux fardiers en raison de la présence d'une sablière dans le secteur. Des citoyens réclament des actions pour sécuriser la route et la mairesse de Saint-Herbert, Sonia Desjardins.
Ce qu'on aimerait aussi, ça serait peut-être une diminution de vitesse. T'sais, on voit sur la 158, avec le trafic qu'il y a là, la vitesse est quand même presque 70 tout long. Ça peut aider. Encore faut-il que les gens la respectent, mais au moins si la vitesse est plus basse, ça pourrait nous aider. Donc, c'est ça qu'on demande en ce moment au ministère des Transports, d'évaluer au moins la vitesse. Ça, c'est pas très cher, une pancarte, donc ça pourrait aider, c'est sûr.
Scène judiciaire, maintenant, Jean-François Malo devra dire pourquoi il ne s'est pas présenté en cours.
Oui, parce que s'il ne se présente pas à sa prochaine comparution le 22 octobre, là, à ce moment-là, un mandat d'arrestation sera émis à son endroit. Malo a omis de se présenter devant le tribunal au stade des représentations sur la peine à lui imposer.
Ça, c'était hier.
Oui, exactement. Et s'il se présente en cours avec une explication qui satisfait la cour...
Ça peut être un billet du médecin, par exemple. Oui. J'imagine.
Alors, s'il se présente en cours, son absence n'entraînera aucune conséquence. Alors, on verra bien.
34 projets communautaires vont recevoir un coup de pouce financier.
Oui, c'est la table des préfets de la Naudière qui a remis des subventions de 3,4 millions de dollars. Cette aide s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche lanaudoise qui vise l'amélioration des conditions de vie. Le préfet de la table des préfets, le président plutôt, de la table des préfets de la Naudière, Sébastien Nadeau, nous dit que les besoins sont grands.
Et nous, d'avoir ces sommes-là du gouvernement du Québec, ça nous aide à préciser les actions qu'on pose. On est proche du milieu, on a des organismes qui sont super dynamiques, donc qui ont des plans précis pour aider de façon concrète. Alors de pouvoir, moi je pense que plus que les interventions se font proche du terrain, plus que ces dollars-là sont bien investis, alors on vient s'assurer par ce déploiement-là de ces aides aux gens qui ont besoin.
Il y a les Premières Nations, Pierre, qui rejettent le projet de Constitution québécoise.
Oui, elles estiment que si le projet était adopté tel quel, il constituerait une exclusion complète des droits des peuples autochtones dans le discours politique et juridique du Québec. D'ailleurs, des représentations seront faites en commission parlementaire. On écoute le chef de Manawan, Sébi Flamand.
Il y aura beaucoup de mobilisation du côté des Premières Nations concernant le projet de loi-là, pour demander de pas le faire avancer, puis aussi en intégrant davantage des recommandations de projets d'articles pour justement faire pression pour reconnaître les droits, notamment en lien avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Et finalement, Pierre, la PCHQ qui propose de faciliter l'accès à la propriété.
Oui, l'association plaide pour une aide fiscale aux parents qui veulent aider leurs enfants à accéder à la propriété. On sait que c'est très difficile par les temps qui courent. La PCHQ veut que le gouvernement fédéral stimule l'offre dans le marché immobilier. Le gouvernement Carney doit déposer d'ailleurs son budget le 4 novembre. Et Isabelle Demers, vice-présidente de la PCHQ, elle énumère ici les demandes.
Un, de permettre de construire plus, construire mieux, construire plus rapidement, donc d'augmenter l'offre, de faire en sorte de maintenir le parc d'habitation qui est vétuste, surtout au Québec. Puis le troisième, c'est de faire en sorte que les ménages qui veulent avoir accès à la propriété puissent y avoir plus facilement. En ce moment, on est devant peut-être la première génération qui n'aura pas accès à la propriété.
Bien, merci beaucoup, Pierre Jubinville.
Bonne soirée, je vais aller chercher mon billet de médecin.
16h37.
Au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 89.
Lanaudière PM. Politique municipale.
Conseillère municipale à Lanoraie depuis 8 ans, il y a José Castonguay qui vise maintenant un poste de mairesse. Sa formation Ensemble Lanoraie propose notamment la mise en place d'un budget participatif et compte appuyer les citoyens qui veulent un projet très attendu de coopérative de santé. Et Régent Turgeon a eu l'occasion de la rencontrer.
Pour les citoyens.
Qu'est-ce qui vous motive là dans la mairie, justement? C'est une étape de plus, là.
Ça fait longtemps que j'y pense. À l'université, je prenais des cours de politique, fait que déjà, j'aimais vraiment la politique. Ça fait longtemps que j'y pense. Là, 4 ans, on m'avait offert la possibilité de briguer le poste de mairesse. Par contre, j'avais été nommée coroner à temps partiel. Je voulais pas tout faire en même temps. Donc, je voulais me concentrer sur apprendre, en fait, ce que c'est être un coroner, bien faire cette étape-là. Puis ensuite de ça, ben là, maintenant, comme j'ai plus d'expérience là au niveau de mes deux compétences, de mes deux emplois, en fait, bien là, je pense que la mairie, là, ça fait un petit bout que ça m'appelle, là.
Vous voulez proposer une nouvelle façon de faire les choses avec un nouveau style de leadership à la féminin et puis être une rassembleuse?
Oui, bien moi, je vois une vision un peu de notre Lanoraie vraiment en parlant avec les gens. Je veux savoir eux ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent avoir, ce qu'ils ont besoin. Donc, je pense que de les solliciter, de les rencontrer, de demander leur avis, que ce soit par sondage, que ce soit par rencontre, on a vraiment l'intention, puis les candidats qui se sont associés avec moi aussi, on a vraiment l'intention de rencontrer rencontrer les gens le plus possible, de leur demander un peu ce qu'ils aimeraient avoir de la Norêt. Mais on a quand même une vision quand même. Je vais être franche avec vous, si on sait un petit peu où ce qu'on aimerait s'en aller. Moi, je rêve d'un la Norêt coloré. Je rêve d'un la Norêt qui est accueillant. J'aimerais un la Norêt qui rassemble les gens. Tu sais, un grand village là, mais tu sais, qui est vraiment accueillant, chaleureux, où il y a une solidarité un petit peu aussi de la,
est-ce que c'est quelque chose qui a manqué, ça, durant les 8 dernières années, là, à la Norêt?
Je sais pas si ça l'a manqué. Je le vois pas de la même façon. Je suis pas une dame, tu sais, qui, je suis pas une politicienne née, là, on s'entend, là. Donc, j'ai pas ça. Par contre, je sais qu'on a quand même avantage à aller faire autre chose, de voir peut-être différemment les choses. Les jeunes aussi qui sont avec moi ont des belles visions, des belles idées. On a commencé le porte-à-porte. On a parlé aux gens déjà, donc j'en ai fait un petit peu avec des candidats là, de mon équipe, puis on a rencontré les gens, sont contents de nous voir, donc ça c'est vraiment intéressant aussi, mais je pense que le fait d'avoir une vision un peu différente de ce qu'est la politique normale ou la politique qu'on est habitué de voir, bien ça fait peut-être des fois une différence qui peut être intéressante aussi pour le citoyen.
Vous avez identifié des besoins, des objectifs là, à combler présents?
On a des idées. Quand je parlais avec les gens qui se sont associés avec moi, j'avais pas le goût de présenter un projet majeur, un projet qui coûte des millions à réaliser. Je veux respecter la capacité de payer des citoyens. Je veux respecter un petit peu aussi qu'on est une petite municipalité, on est un petit village, on n'a pas les mêmes budgets que les grandes municipalités qui nous entourent là. Donc à ce moment-là, on a des idées. Par contre, on aimerait faire des petites choses qui vont vraiment, tu sais, peut-être changer un peu le quotidien. Donc on a pensé réévaluer la possibilité de peut-être proposer. Parce qu'on a eu déjà dans le passé un projet d'aqueduc, donc dans le rang dans lequel je demeure, et les coûts sont quand même élevés. Peut-être qu'on va réévaluer cette possibilité-là, peut-être qu'on va proposer autre chose pour essayer d'aider nos citoyens qui peuvent pas avoir l'aqueduc. Moi, je l'ai pas non plus, donc je comprends ça. On a des petits projets tout simples de dire qu'on aimerait peut-être améliorer le terrain de pétanque de nos aînés, parce qu'on a plusieurs aînés qui jouent sur le terrain de la pétanque. Donc, peut-être mettre juste quelque chose pour couvrir là, leur terrain, quand que ce soit, quand il y a trop de soleil ou de la pluie. C'est toutes des petites choses comme ça qu'on aimerait réaliser là, dans un budget participatif. On aimerait mettre sur pied un budget participatif, un budget dans lequel on ferait vraiment demander aux citoyens, là, on vous offre un montant X, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Donc, les consulter vraiment pour ça.
Vous aviez entendu quoi sur le terrain jusqu'à présent? La réception est bonne?
Oui, la réception est bonne. Les gens sont contents de nous rencontrer. Ils nous proposent des petites choses aussi. On a eu des idées. Là. Il y a des jeunes qu'on a rencontrés qui étaient très, très intéressés aussi par la politique. Ils nous demandaient des choses. Donc, on a rencontré des gens qui nous ont parlé de la sécurité routière, de la vitesse, évidemment, dans nos rues, de l'éclairage de certains endroits dans notre municipalité qui manquerait peut-être un petit peu d'éclairage. Donc, chacun, évidemment, dépendamment du secteur où on se présente, ont des petites demandes de leur côté, justement, pour essayer d'améliorer leur secteur ou leur quartier.
On a beaucoup entendu parler ces deux dernières années d'un projet de coopérative de santé à la Norêt. Il y a des besoins à combler à ce niveau-là dans le milieu de la santé. C'est un dossier que vous pensez reprendre à votre charge?
La coopérative de santé, c'était un projet de notre ancienne équipe quand on s'est présenté aux élections 2021, né par M. Serge Lemieux. Donc, c'est lui qui avait présenter ça aux citoyens. Donc, ce projet de coopérative-là, malheureusement, c'est sûr que là, on fait un petit peu de surplace avec ça, mais il y a eu des citoyens de la Norêt qui nous ont offert là des possibilités là pour de la location. Il y a des citoyens qui sont impliqués aussi sur le comité là pour cette coopérative-là. Donc, effectivement, c'est sûr que si les citoyens qui sont impliqués, qui demandent d'avoir une suite à tout ça, ben on va les appuyer, évidemment, dans tout ça.
Êtes-vous prête à gérer ce qui pourrait devenir un conseil divisé si des membres des deux équipes sont élus?
Ma façon de voir la politique, moi, je pense pas qu'il y a une opposition. C'est un peu particulier quand on parle de ça, quand on regarde au niveau provincial ou autre, de dire, ben, d'un côté, puis de l'autre côté, c'est l'opposition. Moi, je pense que dans une politique, quand on est élu, on travaille tous pour les mêmes citoyens. Donc, que ce soit mon équipe, que ce soit des gens de l'autre équipe. On a travaillé d'ailleurs les 4 dernières années avec des gens qui n'étaient pas dans mon équipe, M. Boisjoli et moi, M. François Boisjoli et moi. Donc, je ne vois pas de problématique du tout à ça. C'est sûr que je souhaite que tous les gens qui m'entourent soient élus, évidemment. Mais moi, je suis élue pour travailler pour les citoyens. Puis peu importe qui va être autour de la table avec moi, ben on va travailler ensemble justement pour que ça fonctionne.
Qu'est-ce qui va faire la différence entre vous puis l'équipe de M. Villeneuve?
C'est toute une question. je pense que dans mon équipe, on a des gens qui sont jeunes, on a des gens qui ont beaucoup d'ambition, on a des gens qui sont passionnés. Honnêtement, je vous dirais, j'ai commencé, comme je vous disais, le porte-à-porte avec ces jeunes-là. Je suis surprise de leur vitalité, je suis surprise de leurs compétences. Fait que je connais pas évidemment tous les gens qui se présentent avec M. Villeneuve, mais je peux juste vous dire que de notre côté, on a toute une équipe.
Ben c'était Josée Castonguay. Elle est candidate au poste de mairesse du côté de la Noraie pour l'équipe Ensemble la Noraie et elle s'oppose au maire sortant André Villeneuve. Dans un instant, Pierre Paquette.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ça fait une belle somme de
2 000 $.
Bravo!
Mathieu, visiblement, t'es pas seul?
Non, effectivement.
Vous êtes combien, là?
Chalet avec les amis en fin de semaine.
Ah, c'est bien. Chalet à Mandeville, carte achetée au Bonichois de Mandeville.
Eh oui, 5 000 $ les dimanches à 10h05 avec les trois jeux. Et pour gagner, il faut jouer.
18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Vendre ou acheter une propriété vous fait peur?
Ah, ben, c'est simple. Contactez-moi.
Simon Mercier, courtier immobilier résidentiel.
Et commercial.
Royal Lepage Partenaire, agence immobilière.
Vieillir chez soi, c'est précieux. Chez Aide à domicile d'Autré, nous sommes complices de votre qualité de vie en vous offrant un accompagnement chaleureux, professionnel et à faible coût. Entretien ménager, préparation de repas et courses, nous sommes là pour vous permettre de demeurer dans le confort de votre domicile aussi longtemps que possible. Nos services s'adressent aux personnes aînées ou en perte d'autonomie dans toutes les municipalités de la MRC d'Autré. Parce qu'un quotidien plus doux fait toute la différence. Contactez Aide à domicile d'Autré au 450-404-2219, poste 2.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Retrouvez le plaisir de manger grâce aux implants dentaires. La pose d'implant permet la stimulation de l'os visant à conserver sa densité osseuse en plus de servir d'ancrage à votre prothèse. Qu'elle soit partielle ou complète, la prothèse sur implant permet de retrouver une force masticatoire considérable en plus de vous redonner une stabilité. Rien à voir avec une prothèse conventionnelle. Du même coup, ces bénéfices vous redonneront la confiance de sourire.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre!
Oui, bonjour.
Question qu'on se pose aujourd'hui, combien de temps le plan de paix de Donald Trump va pouvoir survivre là, entre Israël et Gaza?
C'est une bonne question, mais en fait, c'est pas un plan de paix. En fait, le plan de Trump, c'est un plan en vue d'un cessez-le-feu. Puis là, bon, on doit avouer que jusqu'à présent, le cessez-le-feu a été respecté, mais il y a déjà beaucoup de tensions entre le Hamas et Israël.
Oui, mais ça a tiré hier, hein?
Oui, ça a tiré, puis c'est pas nécessairement facile à démêler tout ça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les Israéliens se retirent de la bande de Gaza, là, ils se sont retirés dans le cadre de la première phase, les autres phases sont à venir, on sait pas trop quand, ben il y a des groupes qui sont pas le Hamas, des groupes armés, des gangs de rue, si on veut, islamistes, qui veulent prendre le terrain, puis le Hamas ne veut pas perdre son terrain.
Ah, voilà, c'est ça. Donc, ce sont des groupes qui pourraient peut-être, en quelque sorte, s'opposer au Hamas, mais avec des idées semblables au Hamas, et qui veulent prendre la place sur le terrain, là.
Ouais, peut-être même plus radicaux, et puis le Hamas a exécuté des gens en les traitant de collaborateurs, mais peut-être que ce sont tout simplement des opposants au Hamas qui trouvent que le Hamas a mal fait d'accepter cette entente de cesser le feu. Alors, donc, c'est ça qui est le problème. Et moi, je crois pas que le Hamas va accepter d'aucune façon de se désarmer. Et ça va être la première pierre d'achoppement. Et ça va amener Israël à avoir les justifications nécessaires pour reprendre les offensives ou à tout le moins, de bloquer l'aide humanitaire qui est supposée rentrer en plus grande quantité dans la bande de Gaza. Donc, c'est loin d'être sûr que cette entente de cessez-le-feu va durer extrêmement longtemps dans les faits, mais il faut espérer que les parties vont être assez mature pour être capable de comprendre que c'est dans l'intérêt de tout le monde.
Et tu sais, Pierre, moi, je garde toujours en tête ce plan de Riviera-Gaza qui avait été présenté par Donald Trump. Je regarde ça, le pays est plus qu'à moitié démoli, là. Dans l'état dans lequel c'est, je regardais aussi les rencontres entre Donald Trump et certains pays arabes. Et je pense aussi à Tony Blair, l'ex-premier ministre britannique, qui est au cœur de ce plan de Trump là pour en fait aller de l'avant avec un nouveau Gaza, si tu veux. Il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. J'ai de la difficulté à croire à tout ça, là, moi.
Non, mais écoute, je pense que Trump a compris qu'il n'y avait aucun avenir dans son rêve d'avoir une Riviera à Gaza. Là.
Ouais.
D'abord, non seulement, comme tu mentionnais, le pays est complètement
dévasté,
mais il faut se rappeler que 11% de la population palestinienne de Gaza a été tuée ou blessée. Alors, donc ça montre l'importance des frappes israéliennes dans cette région-là. Ça a été, semble-t-il, mis de côté. On s'entend même pas, enfin, on voit pas réellement qui va assurer la gouvernance de la bande de Gaza. On avait parlé d'une force internationale, mais déjà, Trump a dit qu'il n'y aurait pas de soldats américains qui seraient présents là-dedans. Ça m'étonnerait que les Européens veuillent aller sans la présence américaine. Alors, la première phase est un succès ça, depuis deux, trois jours, mais le reste extrêmement nébuleux. Et moi, j'ai l'impression que ça ne tiendra pas plus qu'une semaine.
Et Tony Blair, là-dedans, qui est pressenti, dans le fond, en tant que médiateur pour l'avenir de Gaza, qu'est-ce que t'en dis?
Ben, on sait que Tony Blair, vers la fin de sa carrière politique, a eu des drôles d'acquaintances. Alors, moi, je pense que ça donne. Je pense que Trump cherche à avoir un autre visage que le sien ou avec le sien dans cette démarche de paix, mais je pense pas que ce soit le bon joueur là, parce que c'est quelqu'un qui a, on le sait, trempé dans plusieurs disons histoires où il y avait des intérêts financiers assez importants. Bon, c'est quand même un premier ministre britannique qui a eu son importance, mm-hmm. Mais je pense que c'est un peu comme quelques-uns des politiciens qu'on connaît, qu'on a connus. Ben, la fin de carrière est un petit peu moins glorieuse que la carrière elle-même. Et puis, comme je le mentionnais, moi, j'ai pas l'impression qu'on va aller tellement plus loin que la première phase du cessez-le-feu. Parce qu'encore une fois, toutes les questions qui ont été posées, qu'on s'est posées, ben, ils n'ont pas de réponse. Il n'y a pas de calendrier pour les trois phases de retrait. La première phase, oui, mais la deuxième, la troisième, non. Comme on l'a mentionné, le Hamas ne se désarmera pas. Israël veut pas reconnaître l'État palestinien parce qu'il y a 700 000 colons en Cisjordanie, de colons israéliens.
Oui, oui.
Donc, ça condamne la reconnaissance d'un État palestinien.
Et rappelons qu'Israël gruge de plus en plus de territoires, justement, en Cisjordanie-là.
Ben oui, même dans le plan entre guillemets, de paix de Trump, une partie du territoire de Gaza, donc une partie du territoire palestinien, va rester une zone de tampon israélienne entre la population palestinienne, le Hamas, et Israël. Alors, c'est une façon indirecte de gruger encore du territoire palestinien.
Pierre.
Donc, même si on peut se féliciter de ce cessez-le-feu, c'est loin d'être la paix.
Merci, Pierre Paquette. On se reparle bientôt. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. Merci à nos collaborateurs François Morin, Pierre Jubainville, Régent Turgeon, ainsi que Pierre Paquette. Ici Claude Fournel. On se donne rendez-vous demain. On sera là à 16h. Bonne soirée.